Bonjour, les saints de la semaine nous amènent du lundi 24 au dimanche 30 mai inclus. Lundi 24 mai, saint Donatien et saint Rogatien, qui étaient martyrs à Nantes sous l'empereur Maximin et qui moururent vers 304. Donatien, converti à la foi chrétienne par Similien, était baptisé et Rogatien n'était que catéchumène. Arrêtés comme chrétiens, ils furent soumis aux tortures du chevalet, passèrent leur dernière nuit à prier ensemble et eurent la tête tranchée au matin de leur vie. Et c'est ainsi qu'ils entrèrent dans la gloire céleste. Leur culte se répandit dans toute la vallée de la Loire jusqu'à Orléans, quand leurs reliques furent déplacés à cause des invasions normandes. Nantes et Rézé-les-Nantes constituent à cette époque les deux foyers du christianisme. Le martyr des frères Donatien et saint Rogatien, fils d'un magistrat de la ville, marquera l'arrivée du christianisme dans l'aristocratie namnette et constituera une forme de catalyseur. Saint Donatien et saint Rogatien, que l'on appelle les enfants nantais, martyrisés au IVe siècle, sont les premiers chrétiens connus et de fait patrons de la ville et du diocèse de Nantes. Donc c'est à Nantes, peut-être en 304, que les saints frères Donatien et Rogatien furent martyrs. L'un d'eux, rapporte-t-on, avait reçu le baptême. Son frère était encore catéchumène. Dans leur dernier combat, Donatien embrassa son frère et pria Dieu, puisque Rogatien n'avait pas été plongé dans le bain sacré, qu'il puisse au moins être lavé dans le flot de son sang. Nous souhaitons une très bonne fête à toutes les personnes prénommées Donatien et Rogatien. Mardi 25 mai, sainte Madeleine Sophie Barra, qui fut la fondatrice de l'Institut des religieuses du Sacré-Cœur. Elle mourut en 1865. Son père était un petit vigneron de la Bourgogne, à Joigny exactement. Elle reçut sa formation de son frère prêtre, qui avait 11 ans de plus qu'elle et qui était un homme totalement étrange. Il lui apprit à fond le grec et le latin, ne lui passait rien, la giflant à l'occasion, lui interdisant toute effusion du cœur et toute récréation. À 20 ans, elle arrive à Paris. Heureusement, elle y rencontre un père jésuite, le père Varin, qui la sauve en devenant son père spirituel. Il rêvait d'un institut voué à l'éducation chrétienne des jeunes filles du monde, de la noblesse et des bourgeois enrichis. Avec elle, dès l'année suivante, les dames du Sacré-Cœur, comme il les appela, eurent un pensionnat à Amiens en Picardie. En 1815, l'Institut reçut ses constitutions calquées sur celles des jésuites. En 1850, l'Institut possédait 65 maisons en France et à l'étranger. C'était une éducatrice à qui il suffisait de faire le contraire de ce qu'elle avait subi de son frère. Épanouir et libérer les âmes au lieu de les tyranniser et corseter. Elle a été canonisée par Pie XI en 1925. C'était donc une bourguignonne, une femme courageuse, à la fois vive, à la culture peu commune, ouverte aux besoins de son temps, fondatrice de la Société du Sacré-Cœur. Et Madeleine Sophie passe son temps sur les routes pour fonder et visiter. À Paris, en 1865, Sainte Madeleine Sophie Barat, qui était vierge, fonda la Société du Sacré-Cœur de Jésus et travailla beaucoup pour la formation chrétienne des jeunes filles. Mercredi 26 mai, Saint Béranger, qui était moine de Saint-Papoule et mourut en 1093. C'était un bénédictin de l'abbaye de Saint-Papoule dans l'Aude. Il pratiqua toutes les vertus monastiques, tellement qu'il fut ainsi conduit à la sainteté. Béranger naquit à Toulouse vers 1005 de parents appartenant à la noblesse. Précocement virtueux, il prit l'habit dès l'adolescence à l'abbaye de Saint-Papoule. Il y mena la vie d'ascète que suppose la stricte observance de la règle de Saint-Benoît. Modèle pour ses congénères, il fut nommé maître des novices, puis aumônier. Ses reliques furent conservées à l'abbaye et suscitèrent de nombreux miracles. Au XIe siècle, l'abbaye, régie par la règle de Saint-Benoît, connaît une période prospère grâce au moine Béranger. Modèle de vertu, des miracles se seraient accomplis de son vivant et sur sa tombe, entraînant un pèlerinage. Nous souhaitons une très bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Béranger. Mais il y a également ce jour-là la Saint-Philippe Néri, qui a été le fondateur de l'oratoire et qui mourut en 1595. Philippe, florentin de naissance, passa les trois quarts de sa vie à Rome et y devint si populaire et d'une sainteté si universellement reconnue qu'il deviendra, après Saint-Pierre, un second patron de la ville éternelle. Il présente cette étonnante combinaison d'une piété nourrie des pères du désert avec un ministère actif, spécialement auprès de la jeunesse. Chez lui, la bonne humeur, voire l'hilarité, s'allie à l'évangélisme le plus limpide. S'étant laissé élever à la prêtrise, il y gagna les plus fervents de ses jeunes convertis. La communauté qu'ils formèrent autour de lui tire son nom, l'oratoire, des soirées de très pieuses, mais très libres et très joyeuses méditations dont il était l'animateur. Ce saint étonnant qui allie à la culture la plus raffinée une sainteté évangélique et une bonne humeur qui ne se refuse pas à la mystification, enchantera ses compatriotes contemporains, puis ravit en France au siècle suivant ceux qui fonderont à leur tour l'oratoire de France, le futur cardinal de Bérulle et le père de Condran. Et si même un sceptique aussi inguérissable que Goethe a pu se sentir un dévot de saint Philippe sans en arriver à partager la foi, il est tout aussi typique qu'un grand universitaire d'Oxford, Newman, converti lui pour de bon, n'ait pas cru pouvoir se mettre à une autre école que celle de saint Philippe Néri. Pour son action auprès des jeunes et sa gaieté contagieuse, il fut avec saint François de Sales l'un des saints préférés de saint Jean Bosco. Donc saint Philippe prêtre était originaire de Florence. Il vint à Rome où il devint curé de saint Jean des Florentins. Pour sauver du mal la jeunesse, il fonda donc l'oratoire où les leçons spirituelles succédaient aux chants et aux œuvres de charité, et il s'illustra par son amour du prochain, sa simplicité évangélique et son cœur plein de joie, dans un zèle extrême et un fervent service de Dieu. Il mourut à Rome en 1595. Saint Philippe confie « Que la joie dans le Seigneur augmente toujours, que la joie selon le monde diminue toujours jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Je ne dis pas cela parce que, vivant en ce monde, nous devrions jamais nous réjouir, mais afin que, même vivant en ce monde, nous soyons joyeux dans le Seigneur. » Saint Philippe Néri est le patron des humoristes et il existe un dicton qui dit ceci « Quand il pleut à la Saint-Philippe, le pauvre n'a pas besoin de riche. » Nous souhaitons une très bonne fête à tous les Philippes. Jeudi 27 mai, Saint Augustin de Canterbury, qui fut évêque et qui mourut en 604. Augustin était prieur du monastère de Saint-André du Mont Celius, l'une des sept collines de Rome, quand le pape Saint Grégoire le Grand vint le soustraire à la paix du cloître. Le pape se souciait fort du salut des Anglo-Saxons, ces barbares païens qui avaient envahi le brumeux pays des Bretons et que ces Bretons refusaient d'évangéliser. Pour eux, ils étaient leurs occupants envahisseurs. Avec 40 compagnons, moine comme lui, Saint Augustin est envoyé par le pape en Angleterre avec une escale à Reims, une à Paris et d'autres encore, car la route était longue de Rome à Canterbury. La mission romaine reçoit l'appui d'Ethelbert, roi du Kent, dont la femme est chrétienne. Il les installe donc à Canterbury. La ferveur et l'éloquence des moines romains impressionnent le roi qui demande à son tour le baptême. Saint Augustin échoua par contre auprès des Celtes chrétiens du pays de Galles par manque de tact selon Saint Bède le Vénérable. Lorsqu'il convoqua leurs évêques pour les amener à le reconnaître comme primat nommé par le pape, et à adopter la liturgie romaine, il crut bon de rester sur son siège au lieu d'aller à leur rencontre. Les clercs bretons, irrités par l'ingérence de ces moines romains dans leur pays, repartirent sans rien céder. Saint Augustin continua d'opérer de nombreuses conversions chez les Anglais et fonda le siège de Canterbury dont il devient l'évêque. Il se dépense alors pour asseoir la jeune église d'Angleterre et multiplie les tentatives pour réconcilier les chrétiens bretons et anglais. Il y faudra 100 ans. Donc il a été envoyé avec d'autres moines romains par le pape Saint Grégoire le Grand pour annoncer l'évangile au peuple des Angles. Et fut accueilli avec bienveillance par le roi de Kent, imitant la vie apostolique de l'Église primitive. Il convertit à la foi chrétienne le roi lui-même et beaucoup de son peuple, et établit plusieurs sièges épiscopaux sur cette terre. Il mourut le 26 mai vers 604. Nous souhaitons une très bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Augustin. Vendredi 28 mai, Saint-Germain de Paris, qui fut évêque, et mourut en 576. Alors nous connaissons la vie de Saint-Germain par son ami Saint-Venance Fortunate, poète latin. Germain voit le jour près d'Autun. Il raconte que sa mère ne le désirait pas et voulut se faire avorter. Elle n'y parvint pas et l'enfant vécut. Après des études à Avallon, il est durant 15 ans moine dans une petite communauté locale. C'est là que l'évêque d'Autun, Agrippin, vint le chercher pour en faire un prêtre. Il y a tant à faire dans ce pays des Francs si peu évangélisés. On le voit un temps, abbé de Saint-Symphorien d'Autun, mais les moines ne sont pas enchantés de cet abbé qui donne leur pain aux pauvres. Le roi de Paris, Childeberg, fils de Clovis et de Sainte-Clotilde, le découvre et se prend d'amitié pour lui. Voilà Saint-Germain, évêque de Paris. Il s'y illustre par une série de guérisons miraculeuses ou non, par la libération systématique des prisonniers et des esclaves. Il fonde aussi l'abbaye de Sainte-Croix-Saint-Vincent, qui deviendra Saint-Germain-des-Prés. Son action en faveur des Parisiens ne s'arrêta pas avant sa mort. Donc à Paris, en 576, Saint-Germain, d'abord abbé de Saint-Symphorien d'Autun, puis appelé au siège épiscopal de Paris, conserva son mode de vie monastique en exerçant avec fruit sa tâche de pasteur, charitable envers les pauvres et veillant à la fondation du monastère de la Sainte-Croix où il fut enterré et qui prit son nom. Nous souhaitons une très bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Germain. Samedi 29 mai, Sainte Ursule Ledochwowska, qui fut fondatrice des Ursulines du Cœur de Jésus et qui mourut en 1939. Marie Ursule Julie Ledochowska connut une Europe déchirée par les guerres et les frontières. Elle naquit en Autriche et fit ses études chez les Ursulines de Cracovie. Elle fonde à Pniewi, près de Poznan, quelques années plus tard, une nouvelle congrégation religieuse, les Ursulines du Cœur de Jésus, pour rayonner l'Évangile. À 42 ans, elle part à Saint-Pétersbourg pour y exercer son apostolat. En 1914, obligée de quitter la Russie, elle continue en Scandinavie où elle est appelée à Rome par le pape pour y établir sa congrégation. C'est dans la ville éternelle qu'elle conclut son existence terrestre. Elle fut canonisée le 18 mai 2003 par le pape Jean-Paul II. Donc à Rome, en 1939, Sainte Ursule Julie Ledochowska, vierge, fonda donc l'Institut des Sœurs Ursulines du Cœur de Jésus, agonisant, et se risqua dans des itinéraires difficiles à travers la Pologne, la Scandinavie, la Finlande et la Russie. Elle avait une phrase particulière, elle disait tout le temps « Ma politique, c'est l'amour ». Également, en ce samedi 29 mai, c'est la fête du bienheureux Aymar, qui fut inquisiteur et martyr et qui mourut en 1242. Ce fut un inquisiteur massacré par les Albigeois. Nous souhaitons une très bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Aymar. Dimanche 30 mai, Saint Ferdinand III le Saint, qui fut roi de Castille et de Léon, et mourut en 1252. Il était roi de Castille et de Léon, mais aussi cousin du roi Saint-Louis. Il libéra Cordoue et Séville, occupées par les Maures, depuis 5 siècles, et y planta la croix du Christ. Il reconquiert l'Espagne et Cordoue jusqu'à Séville, fonde l'université de Salamanque et construit la cathédrale de Burgos et fut canonisé en 1671. Donc à Séville en Espagne, en l'an 1252, Saint Ferdinand III, roi de Castille et de Léon, était prudent dans l'administration de son royaume, protecteur des arts et des sciences, attentif à diffuser la foi. Nous souhaitons une très bonne fête à toutes les personnes prénommées Ferdinand. C'est également ce dimanche 30 mai la Sainte Jeanne d'Arc, vierge, qui mourut en 1431. Jeanne d'Arc était fille d'humbles paysans de Lorraine. « On m'appelait Jeannette, disait-elle. Elle entendit des voix mystérieuses alors qu'elle n'avait que 13 ans. Saint Michel, Sainte Catherine et Sainte Marguerite, pendant 3 ans, lui demandèrent de libérer la France et de faire sacrer le roi à Reims. À Chinon, premier prodige, le roi donne une armée à cette bergère de 16 ans, ignorante des lois de la guerre. En 8 jours, au début du mois de mai, elle délivre Orléans assiégé depuis 7 mois. En juillet, Charles VII est sacré roi à Reims. Après les réussites difficiles, vint le temps des épreuves. Le roi abandonne Jeanne 1 an après Orléans. Elle est faite prisonnière à Compiègne, livrée aux Anglais, passe 1 an en prison, courageuse, héroïque dans sa pureté devant les tentatives des soldats. Sous prétexte qu'elle s'habille en homme, elle est condamnée comme hérétique. Seule lui reste la foi et l'encouragement de ses voix. Elle meurt brûlée vive à 19 ans, à Rouen, le 30 mai 1431. Jeanne d'Arc est fêtée par la République française le deuxième dimanche de mai, fête nationale de Jeanne d'Arc et du patriotisme, selon la loi du 10 juillet 1920. La date de Sainte Jeanne d'Arc, fixée par le martyrologue de l'Église catholique, est le 30 mai, date anniversaire de sa naissance au ciel, c'est-à-dire de sa mort. Tout au long de l'année 2012, des manifestations étaient prévues en France pour commémorer le 6e centenaire de la naissance de Sainte Jeanne d'Arc. Benoît XVI dira « Sainte Jeanne est une des figures caractéristiques de ces femmes fortes qui, à la fin du Moyen-Âge, portèrent leur peur, sans peur, la grande lumière de l'Évangile dans les événements complexes de l'histoire. » Sainte Jeanne d'Arc nous apprend que lorsque le pays est marqué par les divisions, et par le découragement et la résignation, la foi qui puise à la sagesse divine offre aux chrétiens la capacité de trouver les moyens extraordinaires d'intelligence et de force pour offrir des raisons d'une nouvelle espérance pour la société. C'est ce que dira Monseigneur Luigi Ventura dans son homélie pour la fête de Sainte Jeanne d'Arc en 2012. Le 27 janvier 1894, Jeanne est déclarée vénérable par Rome. Le 18 avril 1909, c'est la béatification de Jeanne d'Arc à Saint-Pierre de Rome. Le 30 mai 1920, ce fut la canonisation de Jeanne d'Arc. Nous vous souhaitons une très bonne fin de semaine et à la semaine prochaine.